Le carême suit son cours, et l'actualité aussi d'ailleurs, qui est dramatique. Mais Jésus, lui, enfin l'Église, nous propose de méditer ces deux textes, l'alliance avec Abraham, et puis ce texte de la transfiguration. À chaque fois, c'est la solitude qui représente le cadre extérieur, et le petit nombre de témoins et d'acteurs. Le Seigneur nous dit, le temps de carême, c'est un temps de recueillement. Et nous avons bien besoin de cette grâce qui nous permet de nous recueillir. Parce que lorsque nous sommes abandonnés à nos propres forces, nous voyons bien combien les pensées vagabondes s'entretiennent les unes les autres, rebondissent avec des sentiments qui les accompagnent. Et c'est aussi varié que ce que les médias nous proposent. Et donc, on a vraiment besoin d'avoir d'un seul coup l'intelligence mobilisée, voyez, finalisée par la vérité, par l'éclatement, l'explosion de l'évidence qu'est la vérité. C'est une chose simple, mais ô combien difficile de remonter jusqu'à là. Ces deux expériences nous livrent justement cette capacité surnaturelle de recueillement. La vision d'Abraham doit être mise, peut être mise en tout cas, en parallèle avec celle, avec le récit de la transfiguration. On a dans les deux cas une même expérience du surnaturel, une expérience de Dieu. Et la progression qui fait passer de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance, c'est que ce Dieu invisible, qui apparaît sous la forme d'une flamme, d'un feu avec Abraham, eh bien, devient le Verbe incarné, devient ce Jésus-Christ que nous adorons et que nous suivons, qui est notre lumière. Là, il a pris des traits humains. Une autre chose à noter, c'est la même présence de la gloire qui qualifie proprement l'expérience du surnaturel. C'est ce mystérieux sommeil dans lequel Abraham est plongé, dans lequel les disciples sont quasiment immergés. Ils arrivent à rester éveillés, mais tout juste. Un mystérieux sommeil, donc, et en même temps un sommeil habité de terreur, d'une terreur dont on ne peut pas préciser l'objet. Cette terreur, c'est la gloire de Dieu. Car devant Dieu, tout genou fléchit, et là, d'un seul coup, on est déstabilisé en tant qu'être petite créature. Être en présence de Dieu, c'est quelque chose d'inimaginable. Et nous devons vraiment remercier le Sauveur, eh bien, d'avoir pris un corps, de s'être fait chair, parce que sinon, on ne pourrait que le supplier de rester loin de nous. Or, par son incarnation, vraiment, Jésus se rend présent et nous donne à nous-mêmes le pouvoir de l'accueillir. C'est quelque chose de fabuleux, un cadeau merveilleux que celui de l'incarnation. Donc on a ce climat de la gloire qui reprend plus proche de nous. Souvenez-vous à Fatima, les enfants qui faisaient l'expérience de la gloire, ils étaient comme écrasés, comme vidés de toute énergie. La gloire, c'est quelque chose qui qualifie Dieu, mais qui qualifie quelque chose d'inhumain en tant que tel. Inhumain, pas dans le mauvais sens, mais inhumain comme un dépassement qui est tellement fulgurant, massif. Ça s'appelle la gloire. Les deux visions ont un contexte d'alliance. La première alliance, bon, c'est clair avec Abraham, mais la seconde, elle est aussi claire. Jésus vient établir la nouvelle alliance. Et dans la transfiguration, eh bien, ça le manifeste d'une façon notable. À chaque fois, il y a cette parole, enfin, en tout cas, c'est la parole que Dieu formule à Abraham, « Je suis celui qui t'a fait sortir ». Sortir, pour Abraham, c'est Ur, les peuples chaldéens. Mais la même parole sera adressée à Moïse, « Je suis celui qui t'a fait sortir, cette fois-ci, d'Égypte ». Et en ce qui concerne enfin Jésus, de quel royaume nous a-t-il fait sortir? Oh, d'un royaume encore plus grand, qui s'appelle le monde. Le monde et sa pensée, le monde et son géotropisme. le monde et ses murs, le monde qui ne veut pas connaître Dieu et qui ne le peut pas. Il n'est même pas blâmable, le monde. Ce sont ces royaumes dont on a parlé dimanche dernier, qui, avec les tentations du Christ au désert, qui ont été conquis, en quelque sorte, remis en la possession du diable, et qui les donne à qui il veut, ces royaumes et leur gloire. Eh bien, nous avons échappé à cela, comme les élus de l'Apocalypse échappent à la grande Babylone. Sors de la ville, ô mon peuple, c'est le même message, c'est la même voix. Je suis celui qui seul peut te sauver. La transfiguration, eh bien, si vous remarquez, si vous regardez les textes autour, elle est en inclusion aux deux annonces de la Passion. Et les annonces de la Passion encadrent le récit de la transfiguration. Et la transfiguration nous montre, eh bien, cette divinité miséricordieuse qui est le prix d'amour payé par Dieu pour nous sauver, pour établir une alliance. C'est on regarde toujours les choses de notre point de vue, ce qu'on va gagner dans l'affaire, dans une alliance, dans l'alliance avec Dieu en particulier. Qu'est-ce que Dieu va nous apporter? Contemplons l'alliance du côté de Dieu, ce que Dieu donne. Il donne son Fils, il donne... Et c'est en même temps quelque chose, la nature humaine est finie. Donc la nature humaine assumée par le Christ est finie elle aussi, mais c'est le Verbe qui l'assume. Et donc, cet amour est infini, contrairement à tout ce que nous pouvons donner nous-mêmes. Et nous devons comprendre par là, à l'aune de la grandeur d'amour de Jésus, qui apparaît là dans la transfiguration, il nous montre l'infini par elle, par cette lumière qui brille, qui fait briller son visage et ses vêtements. Eh bien, il y a l'horreur de l'esclavage du démon. L'horreur. Être l'esclave du démon, c'est être, là où on a la guerre en Ukraine, les horreurs de la guerre, les bombardements qui effacent tout, des gens qui sont déplacés en plein hiver sur les routes, etc. Ça tourne indéfiniment, ces guerres autour de la planète, ça n'arrête pas. Et ça, c'est la gestion du démon. Et la gestion du démon, c'est... les gens sont déplacés, mais ce n'est pas pour sortir du monde, c'est juste pour être lancés sur les routes du monde et détachés encore plus de leur tradition. Tiens, le seul qui puisse nous sauver de ce cercle infernal, de cette gestion maléfique du monde, c'est vraiment Dieu, c'est vraiment notre Dieu, Jésus-Christ. Enfin, les deux visions appartiennent au désert à proprement parler, comme je vous le disais en introduction. C'est l'Église et Jésus nous recommandent d'accroître et d'intensifier notre prière personnelle. En profondeur surtout, pas le temps bien sûr, mais surtout la profondeur. Vous savez, une prière qui fait vraiment brûler notre cœur, qui l'ouvre réellement et qui ne dure que 5 minutes, vaut mieux qu'une heure d'inattention. Il y a toujours dans cette optique d'une spiritualité du désert, du carême, une vision anticipée du ressuscité dans la transfiguration. Et ça, il faut le regarder. On regarde le crucifié, bien sûr, c'est Pâques. Mais Pâques ouvre aussi à la résurrection. L'allure extérieure que Jésus a lors de la transfiguration n'est autre que celle du ressuscité, qu'on voit lors des apparitions de Jésus, eh bien, à la fin des évangiles. Et il nous montre par là qu'il est le maître de la vie. Voilà le grand thème que nous devons méditer aussi en carême. Nous devons méditer notre éloignement de la source de la vie, d'une part, nous sommes pécheurs, mais aussi que le maître de la vie est venu au devant de nous et continue de le faire. Alors réellement, aspirons à la vie véritable et non pas à ces succédanées que le monde nous propose des plaisirs au lieu de la vie véritable. Enfin, le carême doit renforcer notre espérance par rapport, eh bien, à toutes les épreuves de la vie présente. Donc prions activement pour ceux qui sont dans l'épreuve durant ce carême, donc pour l'Ukraine en particulier, mais pas seulement. Et soyons pleins de confiance en Dieu surtout.